série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Clé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Il ouvre la porte de son appartement et appuie sur l'interrupteur de la lumière. Il ouvre une autre porte et entre dans la pièce commune. Quelle heure est-il ?
3 heures !
Je suis crevé. On peut dire qu'il m'en a fait voir celui-là, et de toutes les couleurs. Ça n'a pas été facile. Regardez-moi ça dans quel état je suis. Il ne me reste plus qu'à aller dans la salle de bain et prendre ma douche. Ah là là, souhaitons que les vieux n'entendent pas trop le bruit de la bouche. Il va dans la salle de bain et se déshabille. Demain, il faudra que je lave tout ça. Une fois déshabillé, il prend sa douche. Cela me fait un drôle d'effet de dormir ici. Je n'ai ni l'habitude des bruits ni des ombres. Et puis, il fait froid. Je n'ose pas mettre le radiateur en route. Je ne sais pas comment ça marche. Je verrai ça demain matin. Il faudra aussi que je trouve du travail rapidement. Ça va me coûter cher tout ça. 1800 francs par mois, sans le chauffage. Ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute. Quel con ! On était bien tout de même. J'allais chez lui, je l'aidais. Enfin, tant pis pour lui. Le lendemain matin, ce rose. Prends un petit déjeuner. Il enlève les draps du lit et refait le lit avec des draps neufs. Remplit un vieux sac de voyage de l'install et va à une laverie automatique. Le plus difficile, ce sera de trouver un emploi. Il ne sort presque pas de chez lui, sauf pour chercher du travail. La journée, il regarde la télévision ou se repose. Tous les jours, il lit le journal. Ah, enfin voilà. J'en ai trouvé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Heureusement que j'ai retiré tout mon argent de mon compte. Je vais attendre un peu, puis je mettrai dans l'autre. Ça va surprendre la caisse d'épargne de voir que le compte se remplit. De ne plus l'avoir, cela va me faire des économies. Un jour, il reçoit une convocation pour une place. Il se prépare pour y aller. Voyons, où se trouvent les certificats de travail des différents employeurs? Où cela peut-il être? J'ai cherché de partout. Non, c'est pas ça. Peut-être dans cette valise qui se trouve au-dessus de l'armoire. Il prend une chaise dans la cuisine, la porte dans la chambre et monte dessus pour attraper la valise. Il met la valise à terre et descend de la chaise. Ah, voilà les papiers. Voilà. Vendeur de 1980 à 1982 chez Bali, puis cuisinier de 1982 à 1985. Ensuite, plus rien. Ça ne va pas paraître bizarre, cuisinier. Non, de toute façon, voilà le CAP. Allez, maintenant, dépêchons-nous de nous habiller. Une fois habillé, il se regarde dans la glace. À quoi je ressemble? Il se voit. Grand, mince, brun, avec dans les 25 ans. Il porte une veste marine et un pantalon bleu pâle. Heureusement que les vêtements me vont. Les chaussures sont un peu justes, mais ça peut aller. Il s'est présenté à Burton pour être vendeur. Comme il a présenté un certificat comme quoi il était déjà vendeur chez Bally, il a été pris. On lui a demandé son adresse, son numéro de sécurité sociale. Voilà 15 jours que je travaille, j'ai de la chance, ma nouvelle vie commence bien. Au magasin, une jeune fille, elle bégaye de moi. De jour en jour, elle se crache à moi. À la sortie du travail, j'ai toutes les peines du monde pour m'en débarrasser. Mon patron est satisfait. Nous déjeunons tous les jours ensemble au petit bourg. Soir après mon travail, je rentre chez moi, mange en vitesse et sors. Je vais soit dans les pubs ou marcher le long des quais du Rhône et de la Saône. J'aime marcher durant des heures la nuit. Quelquefois l'on fait une rencontre. Sans se connaître, on parle assis sur un banc. Je me sens libre et bien. Cette nouvelle vie me plaît. C'est la vie qu'il menait. Quelquefois j'ai l'impression d'être lui. Je sens son corps contre le mien, tellement contre le mien qu'on ne fait qu'un. J'ai les mêmes pensées que lui. En vivant comme lui, j'ai l'impression de connaître ses moindres pensées. Je n'ai plus besoin de personne puisque je suis une personne à part entière. Pas besoin de chercher quelqu'un pour faire l'amour. Il est en moi. Je n'ai qu'à me regarder dans la glace. La jeune vendeuse Florence l'a raccompagnée jusqu'à son immeuble, 5 rue Bouteille, au deuxième étage d'un immeuble vétuste. Il n'a pas pu faire autrement que de l'inviter à prendre un verre. Il ouvre la porte et la fait entrer dans un petit couloir. En face de la porte d'entrée se trouve une petite porte qui mène à la salle commune. Elle voit que c'est une grande pièce rectangulaire avec un coin cuisine. Déshabillez-vous, Florence, je vous en prie. Je vous offre à boire. Elle quitte son manteau et s'assoit sur un fauteuil. Pendant ce temps, il prépare 2 verres de bourbon. Va bavarder une heure de choses et d'autres, elle lui dit qu'elle doit partir. Elle se lève. Vous êtes étrange, Michel. Vous ne m'avez même pas fait la cour, ni cherché à m'embrasser. Je ne vous plais donc pas? Je ne dis pas cela, mais pour le moment j'ai besoin de solitude. Il soupire. Ils font tous les deux quelques pas vers la sortie, mais avant de quitter la pièce, elle la regarde. C'est étrange comme cette pièce est rangée. Tous les objets sont bien disposés, rien ne traîne. Mais en y voyant, on a l'impression d'être dans un musée. C'est froid, on dirait que personne ne vit ici. Michel, lui aussi observe attentivement la pièce. C'est parce que j'aime l'ordre, Florence. Il faut encore quelques pas. Peut-être, mais en plus de l'ordre, il y a autre chose qui fait que tout semble momifié. Vous devriez sortir un peu, voir du monde et changer votre décor. Au revoir, Florence. Au revoir, Michel. Pourquoi m'a-t-elle dit cela? Oui, j'aime l'ordre et ces objets me rappellent tellement de souvenirs. Florence n'est plus revenue et ne cherche pas à le revoir. Elle a compris qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Après 2 mois, j'ai enfin vu une de mes voisines. C'est à Mémé d'en bas de chez moi. Elle m'a dit bonjour et c'est tout. Pas surprise de me voir. J'ai de la chance, les gens ne sont pas curieux. En faisant des rangements, j'ai trouvé de vieilles photos de famille dans une vieille boîte de gâteaux en aluminium. Cela m'a fait un choc. Je pensais tellement à lui au présent que j'avais presque oublié notre passé et mes anciennes peines. Dommage, cela gâche le présent. Lorsque je m'habille, cela me donne des frissons dans le corps. J'ai l'impression que mes mains ne sont plus les miennes ou que mon corps n'est plus le mien. Je n'ai pas de remords, mais quelquefois une grande amertume. Il m'arrive, la nuit, de me réveiller en sursaut, d'être surpris de me retrouver seul dans ce grand lit où avant je n'étais jamais seul. Et dans le demi-sommeil, je veux que mes oreilles entendent l'eau de la douche pour me prouver que s'il n'était pas près de moi, il était dans la salle de bain. Mais dès que le jour paraît, je me sens bien avec moi-même et lui en moi. Je sais pourquoi, mais dans la journée et surtout le soir, j'ai comme si ma poitrine s'enfonçait. Et un jour nous lisons dans le journal, étrange affaire, était trouvé mort dans son domicile, au 5 rue Bouteille, Monsieur Michel Alban. Il était mort depuis plusieurs jours. Ses voisins ont été surpris de le voir à la fenêtre, toujours à la même place, la silhouette d'un homme qui semblait plaqué contre la vitre. Ils ont sonné chez lui et au bout d'une heure ont décidé d'appeler la police. A découvert le corps plaqué contre la vitre. Il était mort depuis 2 jours d'une crise cardiaque. Monsieur Michel Alban vivait seul et semblait ne pas avoir de famille. Pour en savoir plus sur cette personne, la police a fait une perquisition à son domicile. La personne n'avait jamais eu de carte d'identité, donc pas d'empreinte digitale. Quelle ne fut pas sa surprise après enquête, de s'apercevoir que le cadavre n'était pas de Monsieur Michel Alban. Ils arrivèrent à cette affirmation, d'abord en fouillant les documents et les photos de la personne. Sur les photos était écrit derrière la photo le nom de la personne photographiée. Monsieur Michel Alban avait les yeux bleus, alors que le mort les avait marrons. Qui était donc la victime ? En fouillant, ils trouvèrent des lettres et des photos où Michel Alban était photographié avec un autre garçon. Ils se ressemblaient beaucoup tous les deux. On aurait dit deux frères. Loin, l'un aurait pu prendre la place de l'autre, mais il y avait la couleur des yeux. Après une recherche minutieuse, la police a reconstitué les faits et l'histoire, surtout grâce à de nombreuses lettres écrites à la victime par François Xavier. Quelques années de cela, Michel, en vacances en Grèce, fit la connaissance de Xavier. Ils lièrent tout de suite une grande amitié. De retour en France, ils se revirent souvent. Un jour, Michel devait partir pour son travail à Perpignan. Il décida de donner les clés de son appartement et sa boîte aux lettres à Xavier. Xavier fut très ému de cette confiance. Durant l'absence de Michel, il alla souvent dans son appartement et passait des heures à rêver. Il s'imaginait vivre avec Michel. Deux mois, Michel revint. Il lui laissa les clés et lui dit qu'il pourrait passer un moment chez lui lorsqu'il serait absent. Xavier était de plus en plus surpris et heureux. On passait. Et Xavier allait souvent chez Michel, passer la journée à rêver d'une vie commune. Il voyait aussi très souvent le soir. Xavier se mit de plus en plus à aimer Michel. Au bout de quelque temps, Xavier se mit à croire que la vie allait durer aussi ainsi longtemps et qu'ils seraient toujours tous les deux. Malheureusement, il s'aperçut avec tristesse que Michel avait des aventures. Il s'en apercevait grâce à des traces qu'elle laissait dans l'appartement. Désordre, laissant la forme de deux corps, serviettes tachées, sur la table de nuit, un gel lubrifiant. Quelquefois, il arrivait chez Michel après avoir épié sa sortie. Il ouvrait la porte avec frénésie et une certaine jouissance de voyeurisme. Il avait l'impression, malgré sa douleur, de faire l'amour à trois. La chambre était en désordre de l'acte d'amour. Cela le rendait malade. Il se disait, pourquoi pas moi ? Un soir, il se confia à Michel et lui dit qu'il souffrait beaucoup de ses aventures. Michel lui dit, « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu es toujours là et les autres ne font que passer. » Xavier se sentit rassuré. Le temps passa, et puis un jour, Michel fait la connaissance d'une autre personne. Il décida de vivre avec lui. Il le dit à Xavier. C'était au cours d'une de leurs soirées. Après avoir écouté quelques disques qu'ils aimaient tous les deux, Michel parla. Il dit que ça ne faisait pas plaisir à Xavier. « Mais écoute, tu n'as rien à craindre. Rien ne changera pour nous deux. Seulement, je vivrai avec quelqu'un. Il faudra me rendre la clé. » Xavier soupira. « On ne se verra jamais comme avant. Je ne pourrai plus venir chez toi comme quand tu n'es pas là. Tu ne seras plus jamais seul. » Michel voyait que la discussion allait durer indéfiniment. Lorsque Xavier était buté, il n'avait rien à faire. Et ce soir-là, il était très pressé, car il avait rendez-vous avec son nouvel ami pour lui montrer où il habitait. Il ne lui avait pas donné son adresse, il devait aller le chercher. Xavier était replié sur lui-même, à broyer du noir. Michel se leva. Allez, Xavier, je suis pressé ce soir. Arrête de faire la tête. Donne-moi la clé. Il s'approche de Xavier et tend la main pour prendre la clé. Xavier soupire et dit oh, « On va encore se voir ?»« Écoute, arrête. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vraiment le moment de me faire une scène. »« Tu vas encore aller voir ton mec ?»« Oui, et alors ?» Xavier hausse les épaules. « Alors, tu me la donnes, cette clé ?» Xavier fait non de la tête. « Attends un peu. » Michel furieux se rassoit et prend une cigarette. « Je n'ai vraiment pas le temps, tu sais. Tu es impossible. » Après 2 minutes de silence, Michel regarde sa montre. Il se lève d'un coup. « Allez, écoute, j'en ai vraiment assez. Rends-moi cette clé. » Il s'approche de Xavier, toujours assis sans bouger. Il tend la main. « Écoute, ça suffit. » Il prend Xavier et le soulève du fauteuil. « Rends-moi cette clé. » « Non !»« Ah, oh, tu vas voir. » Et Michel l'attrape au collet. « Rends-moi cette clé. » Xavier essaye de se dégager par de grands gestes. Il arrive, et cette fois c'est lui qui tient Michel au collet. Et il lui dit « Non, tu m'entends, non !» Il le secoue, Michel, et le serre si fort que Michel a de la peine à respirer. Une fureur terrible s'est accaparée de lui. Il ne sait plus ce qu'il fait. Michel étouffe. Lui est en nage, puis au bout d'un moment, il le lâche violemment. Michel bute contre le rebord de la cheminée et tombe. Il ne se relève pas ni ne bouge. Son visage est grimaçant et fixe. Xavier se penche vers lui. Et il s'aperçoit qu'il est mort. Cette mort, rapide, après cette scène, ne lui fait pas de peine. Il se dit... Tant pis, les dés sont joués. Maintenant, il faut que j'agisse pour sortir de ce pétrin. Malgré cette froideur d'esprit, il aime toujours Michel. Mais c'est le genre de personne que lorsqu'elle a fait une faute, elle se dise froidement « J'ai fait une bêtise, on ne peut pas revenir en arrière. » Ce qu'il faut maintenant, c'est en supporter les conséquences froidement et cherchait à s'en sortir. Les remords, les peines, après, lorsqu'on aura le temps, d'abord agir et mettre de l'ordre. Mais avant d'agir, réfléchir, pour ne pas faire de gaffe. C'est ce qu'il fit. Puis Durant 2 heures, il resta dans la pièce, enfermé, à réfléchir en faisant les 100 pas. Je pourrais m'en aller et laisser le cadavre ici. Non, c'est trop risqué pour moi. Appeler la police, j'aurai des ennuis à ne plus finir. Consciemment, il cherchait un moyen pour pouvoir continuer à venir dans cet appartement, car il avait pris l'habitude de passer des heures ici à rêvasser à Michel. Tout ce qui l'entourait lui rappelait son ami, et il avait appris à l'aimer sans sa présence, même mieux qu'auprès de lui, car lorsqu'il était près de Michel, il se sentait gauche et ne savait quoi dire. Son amour était trop grand, et auprès de l'être aimé, il devenait stupide. Tandis que seul, dans son appartement, il pouvait sentir sa présence, tous ses objets, en rêvant à lui, tout en toute quiétude. C'est pour cela que la perte du corps, la mort de Michel, lui causait moins de peine que s'il perdait le monde qui l'entourait. Nous n'avons ni lui ni moi de famille. Nous vivons seuls. Même la personne avec qui il voulait vivre ne connaît pas son adresse. Pas de carte d'identité. Pas de chéquier. Sauf notre livret de caisse d'épargne. Et moi, j'ai retiré tout ce que j'avais. Je connais sa signature. Personne ne connaît notre liaison. Nous sommes tous les deux chômeurs. Je dois tout faire pour rester ici. Après mûre réflexion, il décida de prendre la place de Michel et Michel la sienne. Quelle heure est-il ? 23 heures. Ma voiture est en bas vers les boîtes aux lettres. Tant pis, tentons le tout pour le tout. Si je suis pris, nous verrons. Il s'habilla, prend le corps sur son dos. Sans faire attention à lui ou le regarder, non, pour lui, ce n'était plus qu'un cadavre à se débarrasser. Ce n'était plus son ami. Son ami, c'était tout ce qu'il avait laissé dans cet appartement et ses souvenirs. Le cadavre, c'était de la charogne à se débarrasser. En cognant, Michel s'était fait une petite ouverture sur la nuque. Ça avait un peu saigné, et en prenant le cadavre, Savien avait taché ses mains et un peu son par-dessus. Il ouvrit la porte d'entrée et descendit les escaliers. Dans le coffre de sa voiture est parti. Il déposa le cadavre chez lui. prit son argent et toutes ses photos et il partit. Tout se passa comme il l'avait prévu. Après quelques jours, l'on découvrit le cadavre. C'est les voisins, à cause de l'odeur. Il fut pris pour sa bien. La police classa l'affaire, faute de mieux. L'on pensa qu'il s'était tué en se cognant, mais on ne sut jamais comment. Savien, lui, vivait à la place de Michel. Ils avaient tous les deux la même taille. Les voisins ne le connaissaient pas vraiment. Savien, sa personnalité se dédoubla. Son plaisir et cette excitation se retrouvaient dans cette double personnalité. Sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Clé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.